CITV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de « Bonjour chez vous ». Aujourd'hui, notre thème du jour est « Dieu veut te débarrasser de tout ce qui t'empêche de le servir ». Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour Evelyne.
Vous allez bien aujourd'hui?
Ça va bien.
Bien.
Bien. Anne, elle veut plus dire
comme un mardi. Comme un mardi, comme un mercredi.
Je t'ai dit, Anne, ça ne veut rien dire. On en a déjà parlé.
Bah, on en a déjà parlé. Le débat est clos.
Le débat est clos. Aujourd'hui, nous allons voir qu'il y a des choses qui nous limitent dans notre service pour Dieu, qui sont parfois comme des boulets attachés à nos chevilles et qui nous empêchent de servir Dieu dans notre plein potentiel, dans tout ce qu'on pourrait faire. Et on va voir comment Dieu veut nous débarrasser de ces choses pour qu'on soit vraiment libre, réellement libre, comme le dit la parole. Et dans la rubrique « C'est mon histoire », nous aurons « Pourquoi vous vous regardez comme ça ?»
On prépare à celle.
J'ai l'impression.
On ne peut pas se débarrasser de toi,
Evelyne. On t'a fait une petite surprise.
Vous me faites peur. Ça va ? Il y a quelque chose de bizarre ?
Absolument
non,
pas.
D'accord.
Non.
Je vois vous jeter des petits regards.
Mais c'est qu'on s'aime bien.
D'accord.
On est complices.
C'est la complicité.
C'est ça.
Aimez-vous sans vous regarder. Nous aurons donc là la rubrique « C'est mon histoire », le témoignage de Noël, cette chère sœur qui est venue nous voir ici sur le plateau et qui vient tout droit de la France, qui est une fidèle téléspectatrice et qui est venue raconter en fait tout ce que Dieu a fait dans sa vie, comment Dieu justement l'a rendue libre pour pouvoir servir le Seigneur. Donc un très beau témoignage de notre sœur Noël. Donc nous allons commencer avec toi Aurélie dans la pensée du jour.
Il n'est pas normal que des difficultés ou des problèmes de toutes sortes vous empêchent de servir Dieu. Si vous avez des problèmes financiers, vous avez des problèmes dans votre couple, vous avez des difficultés en fait dans votre contexte ou bien des maladies, etc., en fait, qui vous empêchent de servir le Seigneur, en fait, il faut savoir que ce n'est pas normal et que Dieu lui-même tient à vous libérer de tout cela afin que vous puissiez justement le servir pleinement. Quand on lit un peu Exode, le livre d'Exode dans l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, en fait, Dieu envoie Moïse dire à Pharaon, « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Et chaque fois que Pharaon s'est endurci, mais il y a eu des représailles en fait. On connaît l'histoire des 10 plaies. Mais pourquoi? Parce que Dieu était déterminé à faire sortir son peuple d'Égypte de l'esclavage pour que son peuple puisse le servir. Et Dieu aussi, il est déterminé comme ça envers nous. Il est déterminé à nous faire sortir de tout ce qui peut être un frein, une limitation dans notre vie, mais pour que nous puissions le servir également. Alors aujourd'hui, je veux vous encourager à ne pas vous habituer à des situations par lesquelles vous êtes en train de passer et qui vous empêchent de servir Dieu. Et je veux aussi que vous ne considérez pas ça comme des fatalités en fait. Il faut pas s'arrêter et dire « en fait j'ai la volonté, je veux servir Dieu, mais je n'ai pas la capacité ». Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu est engagé dans votre libération et en fait Dieu ne plaisante même pas avec ça. La Bible nous dit dans Éphésiens 2 au verset 10 que nous sommes l'ouvrage de Dieu, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. En fait, nous avons été créés pour porter du fruit pour le Seigneur. Et Dieu, pour s'assurer que nous portons du fruit, mais il a envoyé Jésus-Christ, son Fils, pour mourir à la croix, pour briser tout ce qui pouvait nous empêcher de le servir, en fait. Dieu est tellement engagé dans notre libération qu'il a anéanti le pouvoir de Satan à la croix. Dans Colossiens 2, au verset 13, à partir du verset 13, on peut lire déjà au verset 14, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. » Peut-être vous êtes là, vous voulez servir le Seigneur et puis il y a des choses dans votre tête qui vous condamnent, il y a peut-être un passé qui vous condamne, il y a des choses qui vous disent « mais non, tu es trop limité et tout ». Mais Dieu, la Bible nous dit qu'il a condamné ces choses qui subsistaient contre vous et il a détruit en fait en clouant tout cela à la croix. La Bible dit aussi qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. En fait, la maladie, les problèmes financiers, vos problèmes de couple, vos limitations, ont été ridiculisés à la croix. C'est ce que ce verset nous dit. Et en fait, on doit comprendre que le pouvoir a changé de main. Désormais, nous avons les pleins pouvoirs pour servir le Seigneur. Et je vous encourage à vous appuyer sur cette œuvre que Jésus a accomplie à la croix, à posséder en fait votre héritage en Christ, à mettre en action votre autorité spirituelle pour servir Dieu. Alors que vous faites ça, Dieu se tient à vos côtés pour imposer le silence à tout ce qui vous empêche de le servir.
Amen. Imposer le silence, c'est bien ça. Ouais, j'aime bien. Merci beaucoup Aurélie. On a vraiment des choses qui peuvent nous bloquer dans notre service, et l'exemple du peuple d'Israël en Égypte est l'exemple par excellence. Ce peuple était appelé à servir Dieu, à lui rendre hommage, à l'adorer, à marcher pour lui, et au lieu de ça, ce peuple était enchaîné, était esclave en Égypte et servait un homme qui adorait de faux dieux, en plus le pharaon. C'était un non-sens en fait ce qui se passait. Exactement, dans notre vie, c'est des choses qui peuvent arriver. On est appelé à servir Dieu. On est appelé à porter du fruit. Dieu a préparé, comme on l'a souvent dit dans Bonjour chez vous, des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Il y a un livre de notre destinée qui est déjà rédigé avant même notre naissance. On est appelé à faire ces choses, mais on est esclave parfois et on est en train de servir notre maladie, on est en train de servir nos problèmes financiers, nos problèmes de couple, et on peut ne pas s'en rendre compte. Donc c'est pas une condamnation aujourd'hui, absolument pas, c'est plutôt une espérance, un espoir de pouvoir avoir ces chaînes qui sont brisées et qui sont réduites, comme tu le disais, au silence. Ces chaînes qui nous disent tu ne peux pas, ces chaînes qui nous disent oh non, d'abord tu dois être guéri, d'abord tu dois régler ce problème, d'abord tu dois trouver un travail, d'abord si, d'abord ça. Et on est centré sur nous-mêmes, on prie pour nos problèmes, on prie pour notre situation et on voit plus en fait ce qui se passe de l'autre côté, les besoins des autres, et ça nous limite. On va regarder notre verset du jour. Aurélie, tu l'as cité dans ta pensée du jour, Exode 7 au verset 26, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Dieu dit ça, laisse aller mon peuple, il le dit à tous les démons, tous les problèmes qu'on peut avoir, laisse aller mon peuple. Nous sommes le peuple de Dieu et nous devons le servir, et ces choses ne doivent pas nous empêcher de le servir. Et Aurélie, on constate aussi que, comme on le dit, tous ces problèmes peuvent devenir vraiment une perte de temps qui nous empêche justement de faire ce qu'on devrait être en train de faire.
Exactement. En fait, quand on a des difficultés, ben déjà, il faut savoir que ce n'est pas agréable. C'est toujours bien de servir Dieu de façon agréable. Oui. Il faut savoir que c'est pas agréable. Et comme tu le disais aussi, les difficultés nous font vraiment être focalisés sur nous-mêmes. Et ce sont vraiment des voleurs d'attention, j'ai envie de dire. Et on sait que la Bible, en fait, Jésus nous demande de demeurer en lui pour pouvoir porter du fruit. Et même parfois comme ça, même il y a ce verset qui me vient où Jésus dit « Je ne fais rien que je ne vois le Père faire », par exemple. Mais comment est-ce que je vais prêter attention au Père qui fait des choses si mon attention est prise et captée par la maladie, par les problèmes dans le foyer, par différentes sortes de problèmes en fait? Tellement ces choses-là peuvent retenir l'attention qu'on oublie. On oublie de porter l'attention sur Dieu qui a le but, qui sait en fait ce qu'on doit faire, et on oublie de servir tout simplement. Et puis le service concerne les autres. C'est que notre attention est tournée vers les autres. On voit les gens, les perdus, on voit différentes personnes à qui on veut faire du bien. Et là, on sert le Seigneur. Mais lorsqu'il y a des problèmes, des difficultés, mais l'attention revient sur nous. Et même parfois, on va dans la prière, on va se dire « Ah, mais moi, je prie quand même et tout, je prie le Seigneur. » Mais vous remarquez que vous allez souvent prier, mais souvent vous priez, vous parlez de vos problèmes à Dieu dans la prière. Et ça vole même les temps de qualité, en fait, qu'on peut avoir avec Dieu, tout simplement. Parce que là, on peut penser qu'on fait quelque chose de bien, parce que, ok, non, moi, je prie souvent. Mais en fait, dans ta prière, tu ne parles que de ça.
Voilà.
Donc, il n'y a pas de vrai temps de qualité.
Ce qui est compréhensible quand même, dans le sens qu'on est dans une situation qui est difficile. Et on comprend qu'on prie comme ça.
C'est pour ça que, comme je dis, ce n'est pas agréable. Dans le sens que ça vient voler quelque chose, en fait. Et aussi, comme là, le verset dit « Laisse aller mon peuple afin qu'il me sait », moi, je veux encourager les gens et leur dire que, en fait, Dieu, Dieu se tient, il est avec nous en fait. Il est de notre côté, voilà, dans cette situation-là. Dieu est de notre côté parce que Dieu veut aussi passer ce temps avec nous. Oui. Dieu veut aussi qu'on porte du fruit. Dieu veut aussi qu'on le sève. Et toutes ces choses qui viennent nous voler, en fait, cette attention dont je parlais dans la présence de Dieu, on doit déjà prendre conscience que Dieu nous a déjà débarrassé de ces choses-là.
Amen.
Ça commence par là. Mmh. On prend conscience, Dieu m'en a débarrassé. Et après, on va parler de la foi et d'autres choses à mettre en place.
Ça me fait penser à quelqu'un qui serait en panne sèche. Il n'y a plus rien dans le réservoir. Il s'arrête devant une pompe à essence. Et puis là, il se lamente devant son réservoir qui est vide. Oh, mon réservoir est vide. Oh, mon réservoir est vide. Et en fait, il est obnubilé par son réservoir vide alors qu'il y a la pompe derrière. Mm-hmm. Et on commence devant tout problème par déjà aller à la pompe chercher du fioul. Mm-hmm. Et je pense que si on a la tendance à être complètement obsédé par notre problème et qu'à chaque fois qu'on se retrouve devant Dieu, c'est pour se lamenter, s'obliger à prendre un temps. Puis on peut même mettre le chronomètre pour s'obliger à, pendant, je sais pas, 15 minutes, 20 minutes, uniquement louer Dieu. Mm-hmm. Et puis dire sa grandeur. Dire, si on est à sec nous-mêmes, que notre langue n'arrive plus à rien dire, on prend un psaume et on le lit à voix haute.
Ouais.
Et on détourne ses yeux du problème. Mm-hmm. Parce que les problèmes sont là exprès pour nous accaparer notre regard et notre cœur. Mm-hmm. Donc il faut se forcer. Des fois, ça prend des méthodes un petit peu drastiques. Et s'obliger, pendant un quart d'heure, je ne parle pas de mon problème au Seigneur, mais je parle de lui, qui il est, sa grandeur. Et ça va nourrir ma foi. Ça va faire... Vous savez, comme un ballon qui se gonfle, là. Okay. Et là, ah, j'étais courbée, mais là, je me redresse. Mm-hmm. Et on va aborder nos problèmes devant Dieu tout à fait différemment. Puis peut-être même que Dieu va pouvoir nous parler. Peut-être même qu'il n'y en aura plus de problèmes.
C'est
parce
ça.
Qu'on se sera tellement rempli de la présence de Dieu que notre problème, ça va être comme un petit caillou sur le chemin, alors qu'avant, il nous semblait un gros rocher.
C'est ça.
Donc, il faut s'obliger, quand on ne peut plus penser à autre chose que notre problème, il faut s'obliger à se tourner vers Dieu et ne penser qu'à Dieu et pas à mon problème.
Ça, il faut avoir conscience que toutes ces choses qui nous arrivent de mal, on le répète, hein, Dieu n'est pas l'auteur de ces choses-là, le diable en est l'auteur, et son plan, c'est de non seulement détourner notre attention, nous empêcher de porter du fruit, mais au final, l'idéal pour lui, ce serait carrément de nous détourner de la foi. Mais avant d'en arriver là, il nous détourne de ce qu'on doit faire, de cet objectif-là. Et le fait de rester justement centré sur notre problème, pensant que, de toute manière, tant que cette chose-là n'est pas résolue dans ma vie, je ne peux pas servir Dieu, eh ben, on donne victoire finalement au diable en se limitant complètement dans notre service. Alors que, comme tu dis, Anne, parfois, alors qu'on est en train de servir Dieu, alors qu'on est en train de le louer et de l'adorer et de détourner nos yeux du problème, Dieu intervient dans cette situation, justement, et on vit notre miracle.
J'avais vraiment vécu ça à un moment donné, ça fait peut-être une vingtaine d'années, on se retrouvait dans une situation qui était vraiment...
Tendu,
compliqué, ça pouvait vraiment tourner à la catastrophe, notre affaire. Et justement, quand j'allais devant Dieu, j'avais compris ça, c'est le moment où je l'ai compris, en fait, ce principe-là. J'ai dit, Seigneur, je ne vais pas te prier pour mon problème, parce que tu en as déjà pris soin. Mais je vais chercher ta face. Et tous les jours, j'allais devant la face de Dieu et je m'interdisais de prier pour mon problème. C'est un peu bizarre comme mentalité. Vous allez me dire, elle est bizarre, Anne.
C'est pas très théologique, tout
pas
ça.
Pas très théologique, mais n'empêche que j'ai pris des forces devant Dieu. Le Seigneur m'a révélé à cette période-là vraiment des choses magnifiques. Et mon problème s'est résolu de lui-même. Ouais. Et le Seigneur a pourvu. Et donc, en fait, là, ça a été une grosse leçon pour moi parce que je me suis dit, ça sert à rien de harceler le Seigneur parce qu'il a déjà pris soin de mon problème. Par contre, mon temps, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus. J'ai pris ce verset-là au pied de la lettre et je l'ai appliqué dans mon temps de prière. Seigneur, je te cherche, je cherche ton royaume, je me concentre sur toi. Et ça, t'en as déjà pris soin. Et il l'a fait
et
de manière brillante, brillantissime.
Amen.
Ouais.
Annabelle, Frank, tu tournes une page de ta Bible. Et tu l'as fermée, là.
Pour l'instant. J'ai...
Ça valait la peine.
On parle des choses qui nous empêchent de servir Dieu, puis j'ai envie d'attaquer quelque chose directement, et c'est la peur, en fait. Parce que beaucoup trop de gens se font voler dans leur vie à cause de la peur. Il y a d'autres problèmes. Il y en a qui se font voler dans leur vie à cause de leur santé. Ils veulent pas prendre soin de leur corps physique. Je me rappelle de Jacko Senior dans les années 50. Il est décédé à 38 ans, je crois, à cause qu'il était trop Il était obèse, ouais, c'est ça. Ouais. Puis il travaillait en fou pour le Seigneur. Il priait toute la nuit pour des gens et tout ça. C'était un ministère de guérison extraordinaire. Mais tu vois, il est décédé à 38 ans. Puis il y avait des maisons d'orphelins qui étaient après créées, tout ça. Et puis tu vois, pour lui, ça a été le corps physique. Il n'a pas su en prendre soin. Et puis ça l'a empêché de pleinement servir Dieu longtemps dans sa vie, tu vois. Mais la peur est quelque chose qui va empêcher les gens. Et tu te rappelles des espions qui avaient été voir la Terre promise et qui sont revenus. Ils ont dit, non, non, on peut pas, c'est des géants. Et puis, s'il aurait écouté. Et puis, on le sait, ça a été prêché tellement de fois. Mais c'est ça, c'est la peur de ce qui peut arriver. Même si Dieu, des fois, t'a parlé, tu te dis, ben non, mais si ça l'arrive, mais Dieu t'a parlé. Ouais. Et la peur te paralyse et elle t'empêche de rentrer dans ce que Dieu t'appelle à faire. Mmh. Et ça, à la fin de ta vie, tu veux surtout pas dire, qu'est-ce qui aurait arrivé si j'avais été là, si je l'aurais fait, si j'aurais fait ce pas de foi? Tu veux surtout pas ça. Débarrasse-toi de la peur dans ta vie aujourd'hui, si c'est ton cas. Joue pas avec la peur. Débarrasse-toi-en. C'est complètement le contraire de la foi et ça va te garder lié et captif de pouvoir vraiment pleinement avancer.
On se souvient du sondage qu'on a fait, je pense, la semaine dernière, si je me trompe pas, où on voyait que les gens, il y avait, je pense, 58% de personnes qui avaient dit qu'ils s'empêchaient toujours de faire des choses par peur d'échouer. Donc, ça limite vraiment.
Ouais.
Et dans la peur, c'est un peu une barrière invisible. Autant la maladie, c'est quelque chose de plus palpable. Mais il y a la peur, il y a la honte, il y a l'offense. Et toutes ces choses sont des choses qui peuvent vraiment nous limiter dans notre service. Et on se dit, personne n'est au courant, personne ne le sait. Mais ça a vraiment un effet, c'est hyper néfaste. Mmh. Et on va aller prier, on va avoir le filtre de l'offense, le filtre de la honte, le filtre de la peur. Non, même là, déjà, dans notre relation avec Dieu, on se limite. Donc, dans notre service, c'est clair qu'on se limite. Peut-être que ça ne nous empêche pas pleinement de le servir, mais en tout cas, ça nous empêche de le servir à 100% et de porter tout le fruit qu'on peut porter si on accepte de se débarrasser de ces choses et d'avoir conscience que Dieu en prend soin, Dieu prend soin de nous, Dieu prend soin de notre cœur.
Amen. Aurélie, pour voir cette intervention divine se manifester, Anne en a parlé, c'est la foi. On a besoin de la foi. Encore une fois, ça revient toujours à la foi. Alléluia.
C'est le seul combat que Dieu nous demande de mener.
C'est clair, le combat de la foi. En fait. Voilà. Amen.
Et c'est ça, enfin, je pense à des personnes, par exemple, qui veulent servir Dieu. Moi, j'ai déjà vu ça souvent. Et qui sont dans des contextes difficiles, en fait, où ils disent « Ah, mais moi, j'aurais bien aimé servir, mais je suis limitée financièrement, le contexte est vraiment dur.
Mm-hmm. »
Et quand on lit dans Hébreux 11, justement, on parle des héros de la foi, et puis on dit que c'est par la foi, genre, qu'ils fermaient des gueules des lions, des trucs comme ça.
Ouais.
Ben, leur contexte était très difficile, le contexte des héros de la foi.
Oui,
c'était vraiment des contextes terribles. Ouais. Personne n'a envie de se retrouver en face d'un lion, quelque part.
Ouais.
Et ça, c'est des choses qu'on doit se rappeler, en fait. Mm-hmm. C'est que si eux, ils ont pu le faire par la foi, c'est justement parce que Dieu a agi. Et nous, parfois, on est trop comme, ah non, mais parce qu'il y a le contexte. C'est comme si j'oublie que Dieu était avec moi, en fait. Alors que même si le contexte est difficile, mais Dieu est toujours là. Mmh. Et c'est justement lorsqu'on va manifester la foi et avec ce cœur tout simplement pour le servir. Si quelqu'un, Anne disait tout à l'heure, chercher premièrement le royaume de Dieu, parfois on a juste besoin de faire certaines prières et de dire à Dieu, Seigneur, je veux te servir.
Oui.
Et c'est ça que je veux voir. Je veux te servir. Et on va voir comment Dieu, il aime ça. Il aime quand on le sert. Mmh. On va voir comment les portes pour le service vont s'ouvrir, en fait, toutes seules. Mais si on reste comme, ah, mais vraiment, je suis ici, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais là, on se bloque nous-mêmes parce qu'on vit avec des standards qui ne sont pas les standards de Dieu.
Mmh.
On vit avec ce que la réalité nous montre,
mais
on ne vit pas avec les standards de Dieu. Mais la foi, justement, c'est de vivre avec les standards de Dieu. Si Dieu a dit qu'il nous a créés pour accomplir des bonnes œuvres, ma foi, c'est de se dire, moi, je vais accomplir des bonnes œuvres.
Mmh.
Ma foi, c'est pas de me dire, je suis limitée pour accomplir des bonnes œuvres. C'est pas comme ça que ça fonctionne.
C'est vrai.
C'est toujours rester à, je vais accomplir des bonnes œuvres. Quel que soit là où je me trouve, quel que soit le contexte, moi, je suis appelée à accomplir des bonnes œuvres. Et qu'on vit dans cette mentalité et qu'on développe cette foi, ben là, on voit les choses arriver, en fait. Parce que c'est cette ferme assurance, comme la Bible dit.
Mm-hmm.
Quand tu la développes, tu te nourris de ça. Ben là, tu vois les portes s'ouvrir et tu vois les choses qui t'empêchaient tomber.
Qu'est-ce que tu dis, Aurélie? C'est la foi s'entend. Et tu sais quand quelqu'un est dans la foi.
C'est vrai.
Parce que ces paroles, tu le sens tout de suite. Ouais. Et puis à la maison, ceux qui nous écoutent, commence à écouter qu'est-ce que tu dis. Commence à écouter ce qui sort de ta bouche de ton mari, de tes enfants, de peu importe qui, même de ton pasteur. Il y a des pasteurs qui sont, à cause des années de ministère, des fois de difficultés, ils parlent plus la foi, ils parlent l'incrédulité et la peur, et puis l'échec. Et la foi va s'entendre complètement, comme Aurélie vient de le dire. Quand tu es dans la foi, tu parles autrement, tu parles différemment, c'est clair.
Amen. Mais il faut sauter de l'idée que certains sont libérés pour servir et d'autres sont entravés pour servir. Parce que il y a certaines personnes qui ne servent pas en disant « Non, mais les autres n'ont pas les contraintes que j'ai. » Mais de toute façon, quand on est dans notre corps humain, on est contraigné. On est contraint.
Contraigné.
Une note sur le calendrier. Anne a fait une faute.
Pour revenir à nos moutons, ma chère Yveline, moqueuse.
J'ai fait 4 dans chaque émission à date.
Ben, oh, 4
bon. Ah, si on aurait su, hein.
Ok, on continue, Yveline. Je ne m'assieds pas en compagnie des moqueurs.
Non, on s'auto-moque
de moi. Ouais.
Bon, je disais donc, ma chère Yveline, avant que tu te moques de moi.
Non, c'était une petite boutade.
C'était une boutade. Ah, mais quelle honte. Enfin, bref. On pense que certains ont moins de contraintes que soi. Mm-hmm. Mais tant qu'on est dans notre corps humain, on l'a, la contrainte.
Mm, c'est vrai.
Et parfois, on voit des gens qui servent d'une manière brillante, mais on n'est pas au courant de leurs contraintes.
Oui.
On a tous des contraintes.
C'est ça.
C'est juste qu'il faut prendre déjà chaque jour... communauté, je vais servir aujourd'hui. Puis demain, je recommence ma gymnastique, je sers aujourd'hui. Mmh. Puis après-demain, je sers aujourd'hui. Parce que la crainte va nous faire raisonner en nous disant « Non, j'ai peur d'eux parce qu'on voit la montagne. » Mais si tu prends un pas après l'autre, un jour après l'autre, tu vas finir par accomplir des grandes choses. Mmh. Et puis ta contrainte, bah, Dieu, il est au courant. Mmh. Il est même mieux que toi au courant de tout ce qui peut te contraindre.
Ouais. Mmh.
Donc il faut arrêter de regarder ses contraintes et arrêter de regarder la montagne. Mmh. Puis juste chaque jour, faire ce qu'on a à faire avec la grâce de Dieu.
Amen.
Et puis il y a des gens qui... On connaît leur biographie, on se dit, ils ont réussi à faire tant de choses avec telle ou telle contrainte.
Ouais.
Mais
c'est fou, hein.
On vit un miracle ou on ne le vit pas.
Ouais.
Et si on veut servir, bah, comme on est contraint, on a besoin du miracle de Dieu.
Et la bonne... Nous...
Oui, vas-y. Un truc. On peut servir aussi dans la prière.
Oui.
Parce qu'il y a des personnes qui vont dire peut-être que moi, je ne peux pas me déplacer, je ne peux pas faire telle chose et telle chose. Mais on peut servir Dieu aussi dans la prière. Et porter même un énorme fruit alors qu'on se tient dans la prière devant le Seigneur.
C'est vrai. Et la bonne nouvelle du peuple d'Israël, c'est quand même qu'ils ont été libérés.
Ouais.
Ils ne sont pas restés esclaves. Ils ont été libérés et Dieu veut nous débarrasser de ce qui nous empêche de le servir.
Ouais.
Et c'est important. On commence peut-être à le servir dans la situation dans laquelle on est, mais ces boulets qui nous ralentissent vont tomber et doivent tomber, et c'est la bonne nouvelle. Et c'est ce qui est arrivé à notre chère sœur Noël, comme je l'ai dit en début d'émission, qui est venue nous partager son témoignage. Vous allez voir que son désir de servir Dieu lui a permis de recevoir non pas une, non pas deux, mais 3 guérisons divines, surnaturelles, qui lui ont permis d'être pleinement libre de servir le Seigneur. Je vous laisse regarder son témoignage dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Noël, une sœur qui nous vient tout droit de Montpellier en France. Bonjour Noël.
Bonjour Evelyne.
Comment ça va ?
Écoute, ça va très bien, à part la voix qui est un tout petit peu grisée avec
c'est
le froid de Montréal. Mais en tout cas, tout va bien.
Je suis vraiment
très, très heureuse d'être ici.
Bah, c'est un plaisir partagé. Noël, tu es une fidèle téléspectatrice de MCI TV.
C'est ça.
Et aujourd'hui, on a le plaisir de te recevoir pour que tu nous racontes ton histoire de multiples guérisons divines que tu as vécues. Je vais résumer un petit peu ton histoire. Oui. Tu nous viens tout droit du Congo, Congo RDC, c'est bien ça ?
Brazzaville.
Brazzaville, j'ai même pas pensé à te demander avant. Brazzaville, bonjour à tous ceux qui nous regardent du Congo Brazzaville. Et d'une famille chrétienne.
C'est ça.
Et arrivée à l'âge adulte, tu t'es vraiment donnée pleinement au Seigneur. Tu as décidé vraiment vraiment de lui donner toute ta vie. Et puis, quand ton mari et toi, vous avez eu votre premier enfant, tu as commencé à avoir des problèmes d'hypertension.
C'est ça. En fait, au sixième mois de grossesse, donc brusquement, l'hypertension est apparue. Et là, j'ai été suivie au point où j'ai eu un accouchement assez lourd. Hein. Je faisais de ce qu'on appelle une toxémie gravidique. Donc, j'ai été en urgence, une césarienne. Et à ce moment-là, l'hypertension s'est installée. J'ai commencé à prendre des médicaments contre l'hypertension. Donc, j'ai eu un traitement. Hein. Des fois, on m'a même annoncé que c'était un traitement à vie, puisque c'est de l'hypertension. Oui. Donc, je prenais des cachets tous les jours.
C'est ça, tous les jours.
Tous les jours. Donc, depuis 2003. Ma fille est née en 2003.
Et on va faire les guérisons, comme on disait, les unes après les autres, parce qu'il y a eu plusieurs problèmes de santé qui sont arrivés.
Qui se sont succédés.
Cette hypertension, déjà, surnaturellement, elle a été guérie et d'une façon assez peu commune.
Assez
parce que tu me disais que tu as commencé à te rapprocher vraiment de Dieu. À un moment, tu as eu une soif de Dieu qui est vraiment...
Une soif de Dieu davantage. Et je voyais aussi que le Seigneur me demandait d'aller plus loin que ce que je faisais jusque-là, comment je le servais. Il voulait que vraiment, il me demandait plus de manière spirituelle. Et moi aussi, j'avais vraiment la soif du Seigneur. Et donc, j'ai dit, mais Seigneur, avec ces problèmes de santé que j'ai, c'est difficile pour moi d'être à ton service avec des freins qui sont liés à un état de santé, sachant que, OK, l'hypertension, elle était régulée par les médicaments, mais c'est que entre-temps, à la naissance de quand j'étais enceinte de mon deuxième fils, qui est né en 2006, à ce moment-là, il m'est survenu des engourdissements. J'y reviendrai. Oui. Des engourdissements que j'avais toutes les nuits. Donc, concernant l'hypertension, j'avais des médicaments à la maison, au boulot, j'avais tout installé tous les jours, je prenais systématiquement mes cachets. Et puis, un jour, c'était à Pâques, un peu avant Pâques, en 2017, donc là récemment, donc ça faisait 12 ans depuis 2003.
Que tu étais sous médicaments tous les jours.
Que j'étais sous médicaments, un cachet tous les jours. Et là, j'ouvre mon tiroir à la maison, mais très sincèrement, je suis frappée d'aveuglement. Je ne vois pas dans le tiroir mes médicaments. Parce que je les ai vus bien après.
Alors que c'est ça, ils étaient là, la boîte était là, mais toi, tu ne la vois pas.
Je ne la vois pas. Bon, je me dis, il n'y a pas de médicaments, je ne peux pas en prendre. Mais nous étions un week-end de Pâques, donc c'était sur 3 jours, jusqu'à lundi. Je savais que j'en avais au boulot, mais je pouvais aussi aller en pharmacie en demandant en urgence. Mais je me suis dit, je vais attendre jusqu'au boulot. Donc, au bout de 3 jours, j'arrive le lundi au boulot, et là, l'esprit me dit... n'en prends pas, parce que là, il y en avait réellement, mais fais-toi prendre l'attention. Donc, je me fais mesurer, parce qu'au service, il y avait une infirmière et une sage-femme. Je me fais prendre ma tension, et elle est normale. Okay. Et là, très
alors que ça fait 3 jours que tu prends pas de comprimé.
Ça fait 3 jours que j'en ai pas pris. Ma tension, elle est normale. Et juste dans mon esprit, j'ai une conviction qui me fait dire, tu es guérie de l'hypertension.
Tout simplement.
Tout simplement, n'en prends pas. Mais malgré tout, je vais quand même aller voir mon médecin qui me donne rendez-vous, voilà, 2-3 jours après. Je lui explique que je voulais arrêter. Mon médecin ne souhaite pas que j'arrête parce que c'est un risque, hein, médicalement, de plus prendre mes médicaments pour l'hypertension. Moi, j'insiste et à ce moment-là, il me propose, bon, OK, vous ne prenez plus votre cachet tous les jours, mais à condition... tous les jours, de vous faire prendre l'attention. Moi, il n'y avait pas de problème. J'avais les collègues au boulot. Donc, une fois, c'était l'infirmière, une fois, c'était la sage-femme. Et on l'a fait pendant 4 mois.
Tous les jours.
Tous les jours. En 2017, on a ouvert un carnet. Donc, on notait chaque fois l'hypertension. Elle était normale et elle s'est régularisée. Au bout de 4 mois, je pense que d'abord, c'était l'été 2017. Et puis, nous sommes allés au Congo, à Pointe-Noire. On a passé l'été, tout s'est bien passé. Je suis revenue. En fait, depuis, je n'en prends plus.
Oh, c'est merveilleux. Plus aucun problème d'hypertension.
Plus aucun problème d'hypertension. Et ce n'est qu'après que j'ai retrouvé la boîte dans le tiroir.
Elle était là.
Et cette boîte, je l'ai gardée dans mon sac comme souvenir.
Oh,
elle était là.
Un souvenir de ce que Dieu a accompli dans ta vie.
Tout à fait. C'est merveilleux.
Et tu nous parlais justement de cette fameuse grossesse de ton fils où tu as commencé à avoir ces engourdissements. Certaines femmes peut-être peuvent savoir, elles l'ont peut-être déjà vécu.
Je sais pas. Je pense qu'on le vit même avant de les avoir. C'est parce que ça a été très intense et régulier. Mm-hmm. Mais ça nous arrive tous. En fait, quand on dort trop longtemps mm-hmm. d'un côté.
On a des fourmis.
Des fourmis, en fait. Voilà, c'est ça. Mm-hmm. Mais de manière beaucoup plus intense et régulière. Mm. Ce qui se passe donc, suite à la première grossesse où j'ai de l'hypertension toxémie gravidique, la deuxième grossesse de mon fils, je suis sous traitement pour fluidifier le sang. Oui. Et à ce moment-là, il y a les engourdissements qui commencent de mes mains et pendant que je dors, hein, ce que la nuit. Oui. Et moi, je pense que c'est à cause du traitement pour fluidifier le sang. Mm-hmm. Donc, j'en parle à mon gynécologue. Il dit non, 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 ça, c'est carrément neurologique. Ça n'a rien à voir. Donc, il m'oriente vers mon médecin traitant qui m'envoie chez le rhumatologue. Donc, ça, nous sommes sur l'année 2006. Mm-hmm. Nous sommes sur l'année 2006 et là commence un suivi important pour ces problèmes d'engourdissement qui surviennent la nuit. Uh-huh. Donc j'ai été opérée pour cela du canal carpien, j'ai eu deux fois des IRM, j'ai consulté des neurochirurgiens à Montpellier, des spécialistes, j'en ai consulté, je pense 4 ou 5. Wow. J'ai été hospitalisée en hospitalisation de jour, en rééducation fonctionnelle pendant une semaine. Okay. Donc, en fait, on va partir de 2006 jusqu'à récemment, l'année dernière, mm-hmm. 2018. Donc, ça fait combien d'années ?
Ça fait
Il va faire 14 ans peut-être.
12 ans, de 2006 à 2018.
C'est ça. Mm-hmm. Tous les jours, j'avais les engourdissements.
C'est long.
Tous les jours.
Toutes les nuits, en fait, tu te faisais réveiller.
Par les engourdissements.
Et c'était presque douloureux, finalement.
C'était douloureux, mm-hmm. c'était gênant. Mais du coup, je l'avais intégré. À Montpellier, il y a des gens qui me connaissent qui seront même surpris de savoir que j'avais ça. Mm-hmm. Parce que je l'avais intégré dans mon mode de mm-hmm. vie. Bon, ma famille, mes enfants, mon mari le savaient. Je me plaignais pas trop. Je me plaignais. Donc, des fois, j'en avais marre. Je repartais. Donc, il y a des moments où Je laissais carrément tomber. J'étais même gênée parce que je me disais, faut pas qu'on pense que je fais exprès ou que j'exagère. Donc pendant un an, par exemple, je n'allais pas voir mon médecin. Je vivais avec. Et puis quand même, je disais non. Nous sommes dans un pays où la médecine est développée. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on me trouve. Mmh. Donc tous les examens ne montraient rien. Donc on me faisait des traitements d'appoint, des antidouleurs, de kiné. J'en ai fait. Et puis il y a eu cette rééducation fonctionnelle qu'on m'a fait à fond. Donc chaque fois qu'ils recherchaient, on m'avait fait les infiltrations, opération du canal carpien.
Ils ont tout essayé, ils ont rien trouvé. Ils avaient trouvé une hernie discale aussi.
C'est ça. Ils ont trouvé hernie discale C3 C4 au niveau de ces étages là. Mais tout ça, donc moi, je vivais avec. Il n'y avait pas de solution, ben je vivais avec. Et puis en fait, l'année dernière, ma fille qui vivait ici au Canada me dit, écoute maman, est-ce que tu peux aller sur la télé EMCI TV parce qu'il y a des pasteurs qui prient, il y a des personnes qui ont été guéries. Moi, dans un premier temps, franchement, j'ai un peu repoussé parce que voilà, comme tout ce qui est spirituel, je veux faire attention. Je sais pas.
Tu connaissais pas du
tout. Je ne connaissais pas du tout.
Je veux faire attention avec quoi je me nourris.
Tout à fait.
Qui est très sage.
Donc j'ai été très prudente. Mmh. Et puis en fait, pendant toute la semaine, l'esprit me tannait, va voir, va voir, va voir. Mmh. Et donc c'est comme ça que la première fois je vais ouvrir EMCI, je me suis dit je vais y aller. Mmh. C'était bonjour chez vous, donc c'était Evelyne que je veux voir et je vais être frappée littéralement, je vais être touchée par ce qui va être dit. Et je commençais à regarder et dans la même semaine, il y a eu une émission où une prophétie va sortir, une parole de connaissance, c'est ça, ça se dit. Quelqu'un va dire, en tout cas, l'émission y est, il y a une personne qui souffre d'engourdissement, et puis on va préciser l'annulaire, l'auriculaire, c'est ce qui me faisait souffrir le plus et les guérir. Wow. Donc en fait, à partir de là, j'avais pas tout de suite aussi capté la guérison, mais une fois là, je vais dormir une nuit complète sans engourdissement.
C'est merveilleux.
Et je veux me rendre compte que je suis guérie. Mm-hmm. Et puis là, c'est le processus d'émerveillement, de témoignages autour de moi. C'est incroyable.
C'est glorieux. C'est glorieux.
Mais entre-temps, mm-hmm. il faut savoir que j'ai eu l'hypertension. J'ai eu la thyroïde. pendant que j'étais enceinte de mon fils, mm-hmm. on a vu que ça avait grossi. J'ai eu la thyroïde aussi. J'ai été opérée de la thyroïde. Oui, pardon. J'ai été opérée de la thyroïde. Enfin, je montrais parce que.
Oui, la cicatrice.
C'est ça. Oui. On m'a enlevé une partie de. Voilà. Et j'étais sous Levothyrox mm-hmm. depuis 2007.
Qui est un traitement hormonal pour pallier c'est à une ça, partie de l'ablation de la thyroïde.
Tout à fait. Mm-hmm. Et là encore, donc ça, c'est la troisième guérison miraculeuse. Oui. Donc depuis 2007. Et là, c'est pareil, c'est en 2018. Là, le Seigneur va me frapper d'oubli. Pareil, j'avais mon cachet de mm-hmm. Levothyrox.
Tous les jours.
À la maison, tous les jours, Levothyrox 75. Au boulot, j'en avais. À la maison, j'en avais. Et puis, un jour, c'est là, je suis au boulot, j'ouvre un tiroir et mes yeux tombent sur ces cachets. Mm-hmm. Et je me dis, mais quand est-ce que j'en ai pas pris? Et dans ma tête, je me rends compte que c'était pas il y a deux jours, pas il y a une semaine, mais longtemps en arrière.
Que tu n'avais plus pris du tout
de cachet. Que j'avais plus pris.
Ce qui est dangereux normalement tout quand à fait. On a subi une telle opération.
Complètement, mm-hmm. mais je voilà, c'était pas fait exprès. Ça, mm-hmm. voilà. Et là, je me dis, et le même esprit qui m'avait parlé, comme pour l'hypertension, oui. vient me donner la conviction que je suis guérie et que je ne devais plus prendre les Levothyrox.
Wow.
Ben, de nouveau, je repars chez mon médecin parce oui. que moi aussi, je comprends pas. Je vais voir mon médecin, mm-hmm. je lui dis, ben voilà, je suis guérie, je ne vais pas prendre les cachets. Et immédiatement, mon médecin me fait faire les analyses pour vérifier donc la TSH. Elle va être normale, tout à fait régulée, et il m'a donné une ordonnance pour que je la prenne. Donc ça, c'était au mois d'août 2018,
oui.
pour que je fasse les analyses deux mois après, en octobre 2018. Sauf que là, j'ai dit quand même, Seigneur, pardonne-moi, tu fais tellement de choses que je ne veux pas être dans le doute.
Mm-hmm.
J'en ai pas fait, et bien je suis là.
Tout va bien.
Tout va bien. Je suis une miraculée du Seigneur.
Amen.
Et c'est surtout le Seigneur, maintenant, il me demande de prier pour les autres, de prier pour la guérison des autres.
C'est ça, parce c'est que ça. C'était important pour toi de pouvoir recevoir déjà ta guérison pour c'est être ça. Pleinement utile c'est entre ça. Les mains de Dieu. C'était ça ton cri c'est du cœur. Finalement, tu n'as pas prié spécifiquement pour être guérie. Et très, très rapidement, tu as eu des symptômes qui ont tenté de revenir après. Je le dis parce qu'il y a peut-être des gens à qui c'est arrivé. On reçoit la guérison et puis exactement. Tu as commencé à témoigner de ta guérison exactement. Et des symptômes ont voulu revenir.
Exactement. C'est justement au niveau des engourdissements des oui. mains. Donc, quand j'ai été guérie, au bout de donc pendant une semaine, j'ai dormi littéralement sans engourdissement. Mm-hmm. Et à partir du moment où j'en avais parlé à l'extérieur, c'est j'ai d'abord informé ma fille notamment qui m'a parlé de MCI et puis mon mari. Et puis quand j'en ai parlé à l'extérieur, le lendemain j'ai eu les engourdissements. Mm-hmm. Mais là on m'a dit non, j'étais un peu déçue,
mm-hmm.
un peu triste. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu me fais mentir. Qu'est-ce qui se passe mm-hmm. et tout ça. Mais le Seigneur m'a dit tu tiens ferme. J'ai eu des paroles mais vraiment d'encouragement. Ma fille, elle m'a dit « Maman, tu pries. » C'est l'ennemi qui vient, qui veut faire mentir, oui. qui revient. Donc, j'ai fait des séances de jeûne parce que j'ai entendu aussi de prier et de passer par le jeûne et prière. Il y a un verset qui le
c'est
dit.
C'est ça, vraiment, tu l'as vraiment eu à cœur, ça.
C'est ça, je oui. l'ai eu à cœur. À un moment donné aussi, j'ai commencé à avoir des vertiges. Et quand je disais vraiment « Stop » au nom de Jésus, et tout s'est arrêté. Donc, effectivement, il faut savoir que le Seigneur guérit, mais ça peut être effectivement un processus
mm-hmm.
sur le temps et oui. qu'il faut savoir se positionner.
Le diable est menteur aussi.
Le diable est menteur.
Il voulait voilà. te faire croire exactement, que finalement, tu n'avais pas reçu ta guérison.
Tout à fait, tout à fait.
Et aujourd'hui, c'est... la santé, comment ça va?
Parfait. Je suis parfaitement
même
rayonnante.
L'hernie discale a été réglée tout d'ailleurs.
Tout est pulvérisé. Je suis en pleine forme, comme une gazelle, mais vraiment, je vais vraiment servir le Seigneur de Allez. Tout mon cœur. Je vais prier. Et puis, ce que je vais dire aussi, c'est que oui, la guérison, c'est une chose, mais par le biais de cette guérison, que les gens puissent connaître le Seigneur, Jésus-Christ en premier. Connaître Jésus, que les gens puissent être sauvés. Et puis, si la guérison vient avec, alléluia, mais d'abord connaître le nom de Jésus. Qui est vraiment pour le salut de tout un chacun.
Amen.
Voilà,
c'est merveilleux. Merci pour ce témoignage merveilleux, Noël. C'était un plaisir de te recevoir.
Merci beaucoup. Merci Evelyne de me recevoir.
Avec plaisir. Témoignage merveilleux de Noël. Et Noël, elle était tellement contente d'être ici. C'était génial de l'avoir ici.
L'enthousiasme de Noël.
Vraiment.
Noël, si vous nous écoutez.
Vraiment, bonjour Noël. C'est sûr qu'elle nous écoute, c'est sûr. Parce que Noël nous a dit qu'elle nous écoutait tous les jours. Et elle écoute toutes les émissions.
Tous les jours.
Je pense même qu'elle m'a dit que ses enfants n'en peuvent plus parfois. Mais ce que j'ai aimé, et puis je veux en parler, c'est que cette femme, elle est venue avec sa fille, et puis elles nous ont dit ce que MCI avait fait dans leur vie, et ça m'a tellement encouragée, ça fait du bien de voir un peu les fruits, parce que je le dis souvent, on ne les voit pas. Et vraiment, que ce soit sa fille ou elle, même dans les coulisses, elles m'ont raconté d'autres choses qui n'ont pas été dites de ce que Dieu a fait dans leur vie, et c'est merveilleux, t'as manqué ça. Ça m'a énormément édifiée, merci Noël, et merci à votre fille aussi. J'ai trouvé ça vraiment génial. Et je veux vous rappeler, à vous qui nous écoutez, que EMCI porte du fruit, vraiment. Et peut-être vous nous écoutez tout seul chez vous. Chaque fois que vous nous écoutez, vous êtes seul et vous ne savez pas que peut-être votre voisin ou votre voisine est en train de nous écouter et est en train de vivre un miracle. Et il y a des fruits qui sont extraordinaires, qui sont portés. On n'en a même pas conscience nous-mêmes. Et je veux vous le dire, vraiment, cette œuvre doit continuer. Cette œuvre doit aller plus loin. Et on a besoin de vous. Vous le savez, on est dans une campagne de dons, les 8000 partenaires, 8000 personnes qui s'engagent à soutenir cette œuvre, à porter cette œuvre par leurs finances avec 35 euros ou plus par mois. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité, en devenant partenaire, de permettre justement que cette œuvre continue et que MCI continue de porter du fruit, comme elle l'a fait dans la vie de Noël, de sa fille et de tellement d'autres personnes. Il s'agit de milliers de personnes. On n'a même pas conscience des chiffres. C'est tellement grand, c'est tellement énorme. Et vraiment, sondez votre cœur. Ouais. Demandez au Seigneur, est-ce que Père, tu m'appelles à être partenaire? Est-ce que c'est ma place? Est-ce que c'est mon rôle? Est-ce que je fais partie de ces 8000 personnes qui doivent soutenir cette œuvre? Écoutez votre cœur. Je suis convaincue que Dieu va vous parler. Si Dieu a mis quelque chose dans votre cœur, vous pouvez aller sur emcitv.com/8000, c'est très facile et vous pouvez devenir partenaire et avec nous, vous allez porter du fruit et vous allez permettre que cette œuvre continue et aille plus loin encore parce qu'il y a encore des merveilleuses choses à faire. Donc je vous remercie de nous avoir suivis. Dieu vous permet d'être libre pour porter du fruit, pour servir Dieu et vous pouvez même être libre dans vos finances pour devenir partenaire. Rien ne doit vous limiter de servir Dieu, absolument rien. Nous allons nous retrouver lundi avec de nouvelles émissions. Je vous souhaite un merveilleux week-end dans la présence de Dieu. Soyez bénis et bonjour chez vous.
Savez-vous que EMCI a besoin de 8000 partenaires mensuels pour entrer dans une nouvelle saison? Je veux vraiment vous encourager à chacun de vous, si vous ne l'avez pas déjà fait, à devenir partenaire avec EMCI pour qu'on puisse voir cette belle œuvre porter beaucoup plus de fruits dans toutes les nations francophones.
Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.